Christ, le berger et gardien de notre âme. C'est ainsi que l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, au chapitre 2, verset 25, nous présente la personne de Jésus. Il y a quelque temps, nous nous sommes proposés d'examiner ensemble une image, précisément cette image, du souverain berger, du pasteur en chef que nous offre l'Écriture pour nous aider à mieux saisir certains aspects parmi les plus importants de la relation unissant le Seigneur à son peuple à travers Christ. Nous avions pour ce faire choisi d'articuler notre méditation autour de trois thèmes: l'avènement, la personne et l'œuvre du Seigneur en tant que souverain pasteur. Faute de temps, nous n'avions pu traiter que les deux premiers. Le moment est donc venu pour nous d'aborder ce matin le troisième thème et d'achever ainsi l'ouvrage entrepris. Mais peut-être est-il judicieux d'attendre encore pour le faire que notre mémoire ait été quelque peu rafraîchie. C'est pourquoi je suggère que nous commencions par un bref rappel de ce que notre première étude nous avait déjà permis de découvrir ou redécouvrir. 9 choses au moins. 1. Que la métaphore du pasteur était ancienne. Dès les temps les plus reculés, en effet, Dieu s'était révélé à son peuple sous les traits d'un berger unique, son berger particulier. 2. Que si l'image du berger était fréquemment utilisée dans l'Ancien Testament pour décrire, dans un contexte encore très largement dominé par le nomadisme, le Seigneur dans sa relation avec Israël, le titre de pasteur, lui, aussi surprenant que cela puisse paraître, ne lui était que rarement reconnu. Selon toute vraisemblance, parce qu'il était juste qu'il fût réservé en priorité à celui qui devait venir, au Messie, à Jésus, à Christ. D'où le titre de notre méditation, souvenez-vous, Christ, souverain pasteur de l'Église, le Nouvel Israël. 3. Que notre folle aspiration à une pleine autonomie par rapport à Dieu avait fait de nous des brebis, des moutons sans berger, condamnées à périr après qu'elles se seraient définitivement égarées. 4. Que le triste spectacle de notre débandade n'avait pas laissé le Seigneur insensible, mais l'avait très profondément bouleversé, au contraire. 5. Que sa vive compassion l'avait très vite conduite à annoncer l'envoi et l'avènement parmi les hommes d'un pasteur unique, le bon berger, pour les arracher à leur nuit, les remettre sur le chemin du salut et les y conduire jusqu'à la vie abondante, la vie éternelle. 6. Que ce berger magnifique, Jésus, alias le Messie ou le Christ de Dieu, n'était autre que Dieu lui-même, dans toute la splendeur de sa majesté. 7. Qu'il était Dieu, certes, mais Dieu fait homme, Dieu devenu fils de David, après qu'il eut choisi librement de s'insérer dans la lignée du grand roi. 8. Qu'après qu'il se fût abaissé jusqu'à nous et qu'il eut accepté de donner sa vie pour nous, le Seigneur l'avait relevé d'entre les morts, afin qu'il fût vivant à jamais pour entraîner celles et ceux qui accepteraient de le suivre vers la source unique et intarissable de la vie. Et 9. Que cheminant désormais à notre côté, si nous écoutions sa voix et avions plaisir à faire ce qu'il nous commande, il était à jamais l'ami sur lequel nous pourrions toujours compter pour nous comprendre, nous assister et finalement nous sauver. gerbes éblouissantes de vérités, toutes plus glorieuses les unes que les autres, qui, alors déjà, nous remplit d'admiration et de reconnaissance pour celui qui, dans sa grâce éblouissante, avait eu l'extrême bonté de nous accorder un tel berger. Mais nous voici prêts à aborder notre troisième et dernier thème de réflexion concernant Christ en tant que souverain berger et gardien de notre âme. Son œuvre. Immense, elle ne saurait être décrite ici dans sa totalité. Nous nous contenterons donc ce matin d'en souligner succinctement quelques aspects, trois seulement, parmi les plus apparents. Et pour commencer celui-ci, il rachète. Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger, dit Jésus. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est pourquoi, verset 15, « Je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne me la prend, mais je la donne de ma propre volonté. » Et pourquoi Jésus met-il ainsi sa vie à la disposition du troupeau ? Pour en assurer le rachat. Verset 18, « Moi, je suis venu, déclare en substance Jésus, pour donner ma vie afin de racheter beaucoup d'hommes. » Et l'apôtre Paul de confirmer dans l'une de ses lettres, « Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter. » Parce que, mieux que quiconque, il savait que notre rachat était à ce prix. Seul pouvait l'obtenir l'abandon librement consenti et l'offrande volontaire de sa vie parfaite. C'est pourquoi il est mort. Afin que par son sacrifice fussent brisées à jamais toutes nos chaînes, ces fers qui jusque-là nous avaient rendus captifs du péché et donc de la mort. Et que tous, nous soyons ainsi en position d'être repris par Dieu pour constituer son peuple. Un geste qui en dit long sur la stupéfiante richesse de son amour pour ces pauvres moutons errants que nous étions devenus. Vous étiez comme des moutons égarés, écrit l'apôtre Pierre. Chapitre 2 de sa première lettre, toujours. « Vous étiez comme des moutons égarés. » Et croyez-moi, nous le répétions vendredi dernier, il n'y a pas plus bête que des moutons. Vous étiez des moutons égarés. Nous étions des moutons égarés. Mais maintenant, que Christ lui-même a porté dans son corps nos péchés sur la croix, vous avez été ramenés vers celui qui est le berger et le gardien de vos âmes. Alors dites-moi si tel est le prix qu'il accepta de payer pour notre rachat. Ne croyez-vous pas que nous valons cher à ses yeux aujourd'hui? Et si notre communauté, l'Église, est ce qu'il possède de plus précieux, son trésor, ne doivent-ils pas trembler les esprits chagrins dont l'art semble devoir se limiter au dénigrement chronique de celle que le Seigneur lui-même a appelée sa bien-aimée? Ces faux frères-là pensent-ils vraiment qu'ils pourront poursuivre longtemps leur œuvre basse sans jamais avoir à rendre des comptes? Ce n'est jamais impunément que l'on touche à la prunelle des yeux du Seigneur. Entendez une fois encore, mes amis, ces paroles du Seigneur à son peuple. Je le cite, Ésaïe 43, Ésaïe 54. « Je t'ai racheté, tu es à moi. Tu vaux cher à mes yeux, je t'aime. » Et quand bien même les montagnes feraient un écart et que les collines seraient branlantes, mon amitié, loin de toi, ne s'éloignera jamais. C'est l'apôtre Paul qui, s'adressant aux anciens de l'église d'Éphèse, acte 20, leur recommande « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau. » Ce troupeau que le Saint-Esprit lui-même a remis à votre garde. Prenez soin de l'Église. Pourquoi ? Parce qu'elle est ce peuple que Dieu s'est acquis par son propre sang. Ce ne fut pas au moyen d'objets qui perdent leur valeur, confirme l'apôtre Pierre, comme l'argent ou l'or, mais par le sang précieux de Christ. C'est par ce sang précieux de Christ que nous, ses brebis, avons été rachetés. D'où notre valeur, insigne à ses yeux, que nul ne saurait contester sans risque. Veillons donc à nous efforcer toujours de porter sur son Église le même regard que Dieu. Un regard, j'ose le dire, amoureux. Et du coup, je vous pose la question, êtes-vous amoureux de l'Église ? De votre Église ? Je pense que cela vaudrait mieux pour vous. Christ, en tant que souverain pasteur, est, on le voit, celui qui d'abord rachète pour son Père une multitude d'hommes et de femmes dont nous faisons partie. Merci Seigneur. Mais il est ensuite, et tout autant, celui qui rassemble cette multitude. Deuxième aspect de son œuvre, donc, le rassemblement. Il rassemble. Parce que le dessein éternel de Dieu est de se constituer un peuple uni, je dis bien uni, il a, dès les temps anciens, annoncé l'avènement d'un berger selon son cœur, dont la mission consisterait, entre autres, à poursuivre jusqu'à son achèvement son vaste projet de rassemblement des brebis ou moutons dispersés. « J'en ai déjà rassemblé, déclare Jésus un jour, j'en ai déjà rassemblé, et j'en rassemblerai d'autres encore. » Avant d'ajouter un peu plus tard, je vais vous rassembler tous, descendants de Jacob. Je vais vous réunir, survivants d'Israël. Je vous regrouperai comme des moutons dans leur enclos, comme un troupeau dans son pâturage. Oui, je vais m'occuper de mon troupeau. Je prendrai soin de le regrouper comme le fait un berger lorsque son troupeau est complètement éparpillé. J'irai chercher mes bêtes partout où elles ont été dispersées un jour de grand orage. Je les retirerai du milieu des peuples et des pays étrangers où elles se trouvent et je les rassemblerai. Une œuvre difficile, mais noble entre toutes, dont il choisit au temps fixé de confier la parfaite réalisation à son Christ. Jésus. Alors, paraît Jésus venu, dit-il, parcourir Israël d'abord, puis le monde entier, à la recherche des moutons perdus. De tous les moutons perdus, qu'il appelle en faisant résonner sa voix, saisit, lorsqu'elles ont reconnu son timbre, met sur ses épaules, et ramène enfin tout heureux dans l'enclos de son père où les attendent celles innombrables déjà qui s'y trouvent. C'est Jésus qui dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans cet enclos. Je dois aussi les conduire. Elles écouteront ma voix et elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. » Jean 10, verset 16. Le projet de notre souverain pasteur, donc, que nous tous, qui l'avons entendu nous chercher, qui avons répondu à son appel et qui avons été ajoutés à son troupeau, l'Église, ne soyons qu'un. Qu'il soit un ne cesse de prier Jésus. Jean 17, par exemple. Et pour cela, qu'il soit uni à nous, je cite ses propres paroles, « Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. » Son projet et notre ambition. Notre ambition ce matin, faire le bonheur de l'adversaire en multipliant au sein de l'Église les dissensions, les ruptures, les schismes, jusqu'à ce que le Seigneur en ait sa claque de toutes nos cliques, ou œuvrer de manière à faire du rêve de Dieu une réalité. Comme des artisans qualifiés de réconciliation, irrévocablement dévoués à la poursuite et au service de la paix, de l'unité, et bien sûr de son lien qui est l'amour. Ainsi, Christ, en tant que souverain pasteur, est également celui qui, pour son Père, rassemble ses brebis, les rapproche, les unit les unes aux autres, solidement, par ce lien précisément de l'amour. Mais il est encore, à n'en point douter, je veux parler de Jésus toujours, celui qui accompagne ses brebis. Troisième aspect de son œuvre donc, l'accompagnement. Il accompagne. Matthieu 28, verset 20, ce verset bien connu. « Sachez-le, dit un jour Jésus à ses disciples, sachez-le, je suis avec vous. Ou mieux, je suis le nom divin par excellence, « Je suis » est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À la différence du simple chef qui peut se permettre de vivre à l'écart de ses subordonnés, le berger, lui, vit avec son troupeau. Partageant pleinement sa condition, il fait corps avec lui. Il y a quelques jours, j'ai reçu un chef d'entreprise qui m'a parlé du village dans lequel il habitait, à la frontière entre l'Essonne et la Seine-et-Marne. Un tout petit village, 3500 habitants, peuplé uniquement, m'a-t-il dit avec fierté, de cadres, de chefs d'entreprise, de médecins et d'avocats. Loin de la zone, fin de citation. Notre souverain berger, lui, habite au milieu de nous, dans notre zone. Il est celui qui a choisi une fois pour toutes d'être à jamais présent à notre côté, où que nous soyons. Alors, présent à notre côté, pourquoi ? Pour trois raisons au moins. D'abord, pour protéger. Protéger. Protéger son Église dont mieux que quiconque, il connaît l'extrême vulnérabilité. Nous avons tous de ces objets hérités d'un être aimé ou chèrement acquis, dont on ne peut même pas envisager qu'on puisse un jour être privé, sinon par la mort, et sur lesquels on veille jalousement. Voilà un exemple. Vous ne savez pas ce que c'est ? Un encrier. L'encrier de ma mère, qu'elle m'a confié il y a si longtemps maintenant. Ne cherchez pas à me le prendre. C'est mon trésor. Nous avons tous de ces objets, hérités d'un être aimé ou chèrement acquis, dont on ne peut même pas envisager d'être privé un jour. Et bien aussi surprenant que cela puisse paraître, figurez-vous que pour Christ, nous sommes l'un de ses trésors personnels. Écoutez plutôt ce que dit de nous l'Écriture. Deutéronome 7, verset 6, c'est vous que le Seigneur a choisi. C'est vous. C'est nous. C'est vous que le Seigneur a choisi parmi tous les autres peuples de la terre pour être son bien, et il ajoute, écoutez bien, le plus précieux. Dire qu'il tient à nous est donc bien faible. Il nous considère comme indissociables de sa personne. Je serai le berger de mon troupeau, déclarait le Seigneur, Ézéchiel 34. Je le mettrai à l'abri. C'est moi le Seigneur Dieu qui l'affirme. Avant d'ajouter, Zacharie chapitre 2, verset 12, quiconque touchera l'un d'entre vous, quiconque vous touchera, touchera en réalité à la prunelle de mon œil. Mes brebis, reprend Jésus, je les connais, je leur donne la vie éternelle. Elles ne mourront jamais. Et personne, vous entendez, personne ne les arrachera de ma main. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout. Et personne ne peut rien arracher de la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. C'est pourquoi le titre de berger et gardien de nos âmes que lui reconnaît l'apôtre Pierre lui convient si bien, gardien. S'il est à notre côté, c'est donc d'abord pour nous assurer la protection rapprochée dont nous avons besoin, pour ne pas être repris par celui qui continue de rôder autour de nous, nous dit l'Écriture, comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Nous dirions aujourd'hui comme un loup. Puis cette certitude, je suis Dieu lui-même, avec nous, tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Puisse cette certitude bannir toute crainte de notre esprit et nous amener à faire nôtre cette belle confession du psalmiste. Et je cite ici le psaume 23, bien sûr. Tu me défends. Tu, toi, me défends. Voilà ce qui me rassure. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur. Pourquoi ? Parce que tu m'accompagnes, toi. Tu m'accompagnes. Je ne suis pas seul. Cela dit, si Christ accompagne l'Église comme berger, un berger son troupeau, ce n'est pas seulement pour la protéger, c'est aussi pour la guider, la conduire. C'est de nous, ces brebis, qu'il parle lorsqu'il affirme « Je dois aussi les conduire. » C'est pourquoi je marche devant elles. Pourquoi ? Parce qu'il est le seul, mes amis, à connaître le chemin qui mène à la vie. Or, s'il est une chose qu'il désire par-dessus tout, c'est bien celle-ci, que nous découvrions bientôt la vraie vie. Cette vie éternelle, autrement dit, cette vie à venir, dont l'Écriture aime à nous dire qu'elle est abondante parce que faite à la fois de repos et d'exaltation. C'est pourquoi Christ se propose de nous servir de guide pour, disait déjà le psalmiste, nous conduire sur la bonne voie, celle des sources d'eau vive, tour à tour tranquille et bouillonnante, pour répondre à la fois à notre soif de paix et d'animation. Je vous regrouperai, promet le Seigneur, je vous regrouperai. Michée 2, verset 12, « Je vous regrouperai comme des moutons dans leur enclos, comme un troupeau dans son pâturage. Alors vous formerez une foule animée, en paix et en joie. » Mais peut-être faut-il dire un mot ici du chemin qu'il nous indique, mais seulement après qu'il l'ait lui-même parcouru avant nous. Qui n'a jamais été déconcerté par son tracé? Certains d'entre nous s'attendaient à ce qu'il fût moins long, moins tortueux, moins obscur, surtout. D'autres espéraient qu'il inclurait plus de descentes que de côtes, comme certains cyclistes de ma connaissance. D'autres encore rêvaient d'une belle promenade au milieu de champs embaumés, judicieusement ponctués de haltes ombragées au bord de quelques torrents, rivières ou lacs aux eaux vivifiantes. Et leur route fut tout autre. Et leur expérience totalement inédite, comme si le divin berger s'était plu à multiplier les voies, veillant à ce que le parcours de chacun soit absolument unique, incomparable. Mais n'est-ce pas là, finalement, que paraît dans tout son éclat l'absolue compétence de notre souverain berger ? Lui sait. Il sait quelle route chacune de ses brebis, chacun de nous doit suivre pour être fin prêt, puisque tel est son objectif, pour être fin prêt lorsque viendra pour lui ou pour elle le moment tant espéré depuis qu'il lui a été promis d'entrer en jouissance de la vie dans sa plénitude. D'où ces choix à lui qui en ont rendu perplexe plus d'un, qui continue de me rendre perplexe. Ici, c'est vrai, les prés d'herbes fraîches, mais là, le sable brûlant. Hier, les larmes, aujourd'hui, le cœur en fête. Et demain, demain, la force ou la faiblesse, le dénuement ou l'abondance, la paix ou le danger, lui seul sait, lui seul. Ce que nous savons, nous, et c'est tout ce que nous savons, c'est qu'en bon berger, il veillera encore et toujours à ce que tout ce qu'il nous donnera de vivre à sa suite concourt à notre bien, en contribuant efficacement à notre perfectionnement, autrement dit, au mystérieux renouvellement de notre être tout entier, appelé à se prolonger jusqu'à ce que nous soit enfin accordé la grâce d'atteindre ensemble sa stature parfaite, Éphésiens 4. Puissions-nous tous ajouter foi à sa compétence en tant que conducteur du troupeau, en tant que notre guide personnel, et le suivre avec confiance, assurés que nous serons, que la route qu'il nous ouvre est la meilleure, puisqu'elle mène sûrement à cette joie pleine et à ce bonheur éternel qui ne se trouve que dans la présence immédiate du Seigneur. Mes brebis, écoute ma voix, dit Jésus. Et parce qu'elles ont foi en moi, elles me suivent. Le temps passe, si Christ est à jamais présent à son côté, c'est enfin pour assister son Église. Et nous terminerons par là. Pour assister son Église. Ce peuple dont il connaît trop bien l'immense faiblesse pour l'abandonner à lui-même et à ses seules ressources. Ésaïe, le prophète, l'avait parfaitement compris qu'il pouvait confier à son peuple, et je cite ici le chapitre 40 de sa prophétie, « Voici le Seigneur Dieu. Il arrive plein de force. Il ramène ce qu'il a gagné. Il rapporte le fruit de sa peine. » Il est comme un berger qui mène son troupeau et le rassemble d'un geste du bras, portant les agneaux contre lui et ménageant les brebis qui allaitent des petits. Et le Seigneur lui-même de confirmer, à partir de maintenant, je vais m'occuper de mon troupeau et en prendre en soin moi-même. J'irai chercher la bête qui s'est perdue. Je ramènerai celle qui s'est écartée du troupeau. Je panserai celle qui s'est blessée. Je rendrai des forces à celle qui est malade. Je serai le berger dont mon troupeau a besoin. » Fin de citation. C'est pas beau, ça? Stupéfiante promesse, bientôt réalisée à la lettre en Christ. Le berger unique que Dieu a placé à la tête de son troupeau pour prendre soin de lui. Ce que représente Christ pour nous aujourd'hui, c'est cela. Celui qui, par sa présence permanente, manifeste la tendresse bienveillante, la sollicitude infinie de notre Père à notre égard. Il est celui qui, ce matin encore, est parti à la recherche de la brebis perdue. Il se propose déjà de la mettre sur ses épaules pour la ramener lui-même tout joyeux, Luc 15, au sein du troupeau. Mais il est également celui qui, maintenant, s'approche encore de nous et le fait à grands pas pour nous secouer vigoureusement, nous qui sommes bien gras et qui bousculons sans gêne de l'épaule et du flanc les bêtes affaiblies. Je cite ici Ézéchiel 34. Ou plus doucement, pour offrir à ceux d'entre nous qui ont faim et soif, de les ramener vers de belles prairies et des eaux claires où ils pourront se restaurer, se désaltérer. Ou encore pour proposer à ceux qui sont blessés de panser leurs plaies, à ceux qui sont fatigués de leur donner du repos, en se chargeant lui-même de leur fardeau, à ceux qui sont affaiblis enfin, de leur rendre des forces, afin que tous, je dis bien tous, ainsi fortifiés par sa puissance glorieuse, nous atteignions le but qui est d'entrer ensemble dans la présence immédiate de Dieu. Et nous y parviendrons, grâce à lui. Prodigieuse espérance, le jour vient et voici, il est proche en effet, où, emmené par un souverain pasteur rayonnant de n'avoir perdu aucune de ses brebis, Jean 17, nous franchirons enfin, en bondissant de joie, nous est-il dit, le seuil de l'immense domaine du Père. Alors, nous dit encore l'Écriture, le Seigneur lui-même nous accueillera en versant sur notre tête un peu d'huile parfumée. Et nous connaîtrons aussitôt, dans sa plénitude, la richesse de sa grâce, de sa bonté, de sa générosité. Pour reprendre les termes du psalmiste, il remplira notre coupe jusqu'au bord. Et nous n'aurons plus jamais faim, plus jamais soif. Ni le soleil, ni aucune chaleur ne nous brûleront plus, car l'agneau, dit Jean, Apocalypse 7, qui est au milieu du trône, sera notre berger. Et il nous conduira aux sources d'eau vive. Comme j'aimerais que nous la partagions tous, cette lumineuse espérance, soleil de notre vie. Et dire qu'il suffirait pour que ce rêve devienne réalité que vous tous ici, qui n'avez pas encore rencontré le souverain berger de l'Église, vous acceptiez, après avoir écouté une nouvelle fois sa voix qui vous appelle à cette heure, en ce moment, de lui dire simplement, Seigneur, tu sais où je me trouve. Viens à moi, prends-moi et fais de moi brebis égarée, une brebis retrouvée, ta brebis pour l'éternité. Amen.